VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Conakry, 18h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Mali, la Cour pénale internationale CPI a confirmé l'inculpation de crimes de guerre contre un djihadiste malien présumé lié à Al-Qaïda pour la destruction de mausolées protégées par l'UNESCO à Tombouctou en 2012. Le procureur de la CPI a annoncé que le prévenu, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, a l'intention de plaider coupable. La première fois qu'une personne inculpée d'un tel crime plaide en ce sens. Pour une analyse, Nicolas Pineau a joint le délégué permanent du Mali à l'UNESCO, le docteur Oumar Keïta.
Je peux être content. Et c'est la première fois que la CPI va organiser un procès pour destruction de monuments. Et il s'agit surtout, en l'occurrence, les mausolées de Tombouctou qui ont été saccagés à coups de pioche. Hein. Nous avons vu ça en 2012, pendant l'occupation des djihadistes. Il se trouve que ce monsieur est aussi membre de Ansardine. Hein. Il y a eu 14 mausolées qui ont été détruites, mais qui ont été réhabilitées par l'UNESCO. Je pense que vous avez vu, en juillet dernier, j'étais moi-même avec la directrice générale, Mme Irina Bokova. On s'est rendu à Tombouctou pour l'inauguration de ces mausolées qui ont été construits, qui ont été réhabilités par l'UNESCO. Les manuscrits, l'UNESCO va conserver et protéger ces manuscrits, puis peut-être les numériser, parce que c'est très important pour l'identité de Tombouctou, de ces populations-là.
Le fait qu'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi plaide coupable pour cette destruction, qu'en pensez-vous ?
L'inculpation va être confirmée, ça c'est sûr. Et je pense que s'il plaide, comme vous le venez de dire, coupable, il va sûrement se justifier. Bon, de toute façon, la Cour a des preuves. Tout le monde a vu, les preuves sont là. Hein. On a vu les preuves à la télé et donc il ne peut pas plaider non coupable.
Le docteur Oumar Keïta, délégué permanent du Mali à l'UNESCO. Les ministres de la Défense et les représentants des 28 pays de la CENSAD, de la communauté des États sahélo-sahéliens, dont font partie notamment la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad, ont convenu aujourd'hui de renforcer leur coopération en matière de lutte antiterroriste. À la fin d'une réunion de deux jours à Sharm el-Sheikh, la station balnéaire du Sinaï en Égypte. La résolution en ce sens, qui sera présentée au président des États membres, met l'accent sur un partage des renseignements et l'établissement de patrouilles conjointes aux frontières, a souligné le ministre égyptien de la Défense, Sedki Sobhi. Il a ajouté que les participants ont aussi convenu de mettre en place un centre antiterroriste basé au Caire. Plusieurs pays membres de la CENSAD sont confrontés aux violences des djihadistes qui ont même pris le contrôle de certaines régions dans des pays comme la Libye. Le terrorisme ignore les frontières. Aucun État ne peut s'en prémunir seul. Il faut des réponses coordonnées et concertées, avait déclaré hier le Nigérien Ibrahim Sani Abani, secrétaire général de la CENSAD. Crise en Libye maintenant, les autorités au pouvoir à Tripoli ont décrété aujourd'hui à l'aube l'état d'urgence maximal dans la capitale libyenne, exprimant ainsi leur rejet du projet de gouvernement d'Union nationale de s'installer prochainement à Tripoli. Les précisions de John Lyndon.
Les rues de Tripoli étaient cependant calmes à matinée et aucun signe de déploiement des forces de sécurité plus important que d'habitude n'était à signaler, selon un photographe de l'AFP. Le gouvernement d'Union nationale, parrainé par l'ONU et dirigé par Fayez al-Sarraj, a annoncé mardi sa volonté de s'installer à Tripoli dans les tout prochains jours. Il est censé mettre fin au conflit qui oppose les deux gouvernements rivaux, siégeant l'un à Tripoli, appuyé par une coalition des milices, et l'autre dans l'Est, soutenu par le Parlement élu. Mais ces autorités rivales ont rejeté ce troisième gouvernement, aggravant une situation déjà chaotique dans un pays où croît de jour en jour la menace djihadiste. Des informations sur la présence à Tripoli des quatre membres du gouvernement d'Union et l'arrivée dans la nuit de M. Sarraj ont circulé sur les réseaux sociaux, mais aucune confirmation n'était possible dans l'immédiat.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, au Congo-Brazzaville, plusieurs quartiers contestataires des deux principales villes du pays, la capitale politique Brazzaville et la capitale économique Pointe-Noire, restent sous tension suite au déploiement des forces de sécurité sur place. Ce matin, la police a dispersé à Brazzaville une réunion que les cinq candidats de l'opposition devaient tenir avec les journalistes. Les autorités ont également interdit tout attroupement dans les rues, notamment dans les quartiers contestataires. Plus de détails avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngusu.
Le porte-parole de la police, le colonel Jules Mokalansoumou, a rappelé que le déploiement de forces de sécurité à Brazzaville et à Pointe-Noire ne devait pas apeurer les populations. Ce dispositif sécuritaire, a-t-il souligné, ne sera levé qu'après le verdict du juge constitutionnel sur un éventuel contentieux électoral. Tout attroupement et réunion de nature à troubler l'ordre public et à appeler à l'insurrection armée sont interdits, a dit le colonel Mokalansoumou. Ce matin, une vive tension a été observée dans les quartiers de Mfilou, la frontière et surtout Diata, où la police a dispersé une réunion de l'opposition. Quelques militants ont également été arrêtés, la police leur reprochant de répondre à l'appel à la désobéissance civile lancé jeudi par le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui conteste les résultats du vote. Ce soir, plusieurs quartiers à Brazzaville et à Pointe-Noire restent sous tension, les policiers et les militaires veillant au moindre trouble à l'ordre public. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En RDC voisine, des hélicoptères d'attaque de la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, sont engagés depuis hier contre les rebelles ougandais de l'Alliance des Forces démocratiques alliées ADF dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Selon un responsable de la MONUSCO, cette opération matérialise la reprise de la coopération avec les FRDC, l'armée congolaise. Jacques Aristide.
Les hélicoptères de combat onusiens ont infligé des pertes dans les rangs des rebelles ADF, d'après le général Jean Bayeux, commandant adjoint des casques bleus en RD Congo. Quant au lieutenant Marc Azouké des FRDC, il a précisé à l'AFP que ces hélicoptères ont pu attaquer les rebelles ADF dans les profondeurs de Semuliki, un village proche de la frontière avec l'Ouganda au nord-est de Goma. Rebelles musulmans opposés au président ougandais Yoweri Museveni, les ADF sont présents depuis 1995 dans l'Est congolais où ils sont accusés de violations graves des droits de l'homme et de se livrer à un juteux trafic de bois. La MONUSCO avait suspendu son appui au FRDC l'an dernier après que deux généraux congolais avaient été accusés de graves violations des droits de l'homme. Mais la visite à Kinshasa du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon en février dernier a abouti à la reprise de la coopération militaire visant en priorité les rebelles rwandais des FDLR et ceux des ADF.
Attentat de Bruxelles, le secrétaire d'État américain John Kerry est à Bruxelles pour présenter les condoléances des États-Unis à la Belgique, toujours secouée par les attentats qui ont fait 31 morts et 300 blessés mardi. « Je suis bruxellois », a dit aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine lors d'une conférence de presse, aux côtés du Premier ministre belge Charles Michel. Toujours concernant la lutte contre le terrorisme, le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, annonce que les États-Unis ont éliminé Abdelrahman Al-Kadouli, considéré comme le numéro 2 du groupe État islamique. Washington affirme que cela va donner un coup de frein à l'organisation djihadiste. Claire Morin-Gibault.
Au Pentagone, M. Carter a révélé cette information lors d'une conférence de presse. « Nous éliminons systématiquement le cercle des dirigeants de l'EI ». Et l'armée américaine a tué plusieurs terroristes clés de l'EI cette semaine, dont nous pensons Haji Imam, nom de guerre d'Abdelrahman Al-Kadouli. Le secrétaire à la défense a précisé qu'Al-Kadouli était l'un des principaux responsables du groupe État islamique, agissant comme leur ministre des Finances et responsable de plusieurs complots extérieurs. Il a souligné que son élimination donnerait un coup de frein aux capacités de l'EI à conduire des opérations en Irak et en Syrie et à l'étranger. Le ministère américain de la Justice avait offert jusqu'à 7 millions de dollars pour des informations conduisant à cet homme. Cela faisait de lui le plus haut responsable du groupe après le chef de l'EI, Abu Bakr al-Baghdadi, qui vaut lui 10 millions de dollars. Selon des sources de sécurité irakiennes, Al-Kadouli est né à Mossoul. Il était en Afghanistan à la fin des années 1990. Selon les autorités américaines, il avait rejoint Al-Qaïda en 2004, était devenu un adjoint du redouté chef d'Al-Qaïda en Irak, Abu Musab al-Zarqawi, tué en 2006 par une frappe américaine de drone. Il avait ensuite été emprisonné et avait rejoint le groupe État islamique en Syrie après sa libération en 2012.
Et pour terminer la crise au Burundi, un collectif d'avocats a saisi la Cour pénale internationale et le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme au nom des dizaines de familles de victimes d'extrajudiciaires d'exécution extrajudiciaire au Burundi. Selon un communiqué des trois avocats en question, côté gouvernement, Bujumbura nie les cas d'exécution extrajudiciaire, accusant une partie de l'opposition, désormais armée, d'être à l'origine de ces exactions. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.